Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan Deslauriers.
Bonjour Francine.
Ça va bien ce matin?
Eh oui, ça va très bien.
Oui, hein? Oui, on a une belle heure qui nous attend.
Oui, puis on s'approche du printemps aussi.
Ça, si, peut-être.
C'est une époque où...
Ben, si vous le dites... Oui, c'est ça. Alors, Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget, on a le plaisir d'animer ce balado, Au-delà des limites, qui est une conversation d'une heure, qui est ouverte sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. Cependant, on se rappelle qu'on met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Aujourd'hui, Yvan, on accueille une personne qui illustre bien la maxime « Les voyages forment la jeunesse ». Née à Laval, pendant sa jeunesse, elle se retrouve entre autres en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Mexique. Le contact avec ces divers pays, qui est conjugué à des activités de sensibilisation à des causes qu'il a soutenues et à laquelle il a participé, aussi variées que l'autisme et la lutte aux drogues et à la criminalité, a fait de lui un homme d'engagement. Jeune adulte, il se tourne vers la politique municipale, une voie exigeante, surtout quand on est atteint, comme lui, d'une maladie inflammatoire auto-immune qui affecte la colonne vertébrale et des articulations périphériques. Cette maladie se nomme la spondylarthrite ankylosante. Après avoir été conseiller municipal pendant 8 ans à Duvernay-Ponviau, il devient maire de Laval en 2021. Il en est donc à son 2e mandat, après avoir été élu maire en 2025, avec près de 60% des voix. Bonjour Stéphane Boyer.
Bonjour.
Est-ce que vous
Merci.
Vous êtes reconnu?
Oui, ça me dit quelque chose.
Ça vous dit quelque chose? Bon, mais ça part bien si on part sur les bonnes voies.
On est avec la bonne personne.
On est avec la bonne personne. On s'est pas trompé ce matin, ce qui nous arrive souvent. C'est ça, tu veux dire? Non? OK.
Non, pas du tout.
OK. Alors, Stéphane Boyer, on va commencer par parler un petit peu de votre enfance, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous intriguent.
Oui.
Entre autres, votre goût de partir tôt pour aller explorer d'autres pays, mais pas comme on fait du tourisme, pour vraiment un but précis. Vous êtes allé étudier à l'étranger très, très jeune.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à partir?
En effet, moi, je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup voyagé. Quand j'ai grandi au Québec, à Laval. L'été, avec ma famille, on faisait des petits voyages de camping dans les différentes régions du Québec. Mais mes parents n'avaient jamais vraiment voyagé, plus jeune, moi non plus. Et mon tout premier voyage, c'est je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la terre, seul. Hébergé dans une famille d'accueil pour les études.
À quel âge?
J'avais 14 ans quand j'ai amené l'idée à mes parents, puis je suis parti l'année suivante à 15 ans.
Ça a pris 1 an avant de les convaincre?
Non, c'était surtout
non.
Que c'est accumuler l'argent, payer les billets d'avion,
ouais.
Le processus aussi de... Je me suis inscrit avec une fondation qui me trouvait une école, qui me trouvait une famille là-bas pour m'accueillir. Mais la question étant, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Je pense que c'était la curiosité. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux pour comprendre le monde qui m'entoure. Avant même de savoir lire, ma mère me disait que le matin, elle me trouvait dans le salon, sur le divan, en train d'observer des atlas. J'ai toujours aimé la cartographie, observer le monde, regarder des cartes. Au primaire, je me rappelle, j'avais essayé de faire un livre sur les oiseaux alors que je connaissais absolument rien, mais je me promenais avec une caméra puis je prenais des photos des oiseaux dans les arbres, je découpais ça puis j'essayais de faire un genre de livre qui expliquait les oiseaux. Donc, j'ai toujours été curieux du monde qui m'entoure. Puis pour moi, le voyage, c'est un peu ça, c'est de découvrir d'autres façons de faire, d'autres architectures, d'autres cultures, d'autres systèmes politiques, d'autres langues. Et... pour moi, ça a été un point tournant, le voyage en Nouvelle-Zélande.
Oui, parce qu'il y en a eu d'autres après, mais comment vos parents, quand même, ont-ils accepté ça? Vous aviez 14 ans.
Oui. Bien, c'est quand même intéressant comment c'est venu. C'est-à-dire que j'étais à l'école, puis durant la pause, il y avait un poster sur le mur d'une fondation qui disait « Faites une année d'études à l'étranger ». Puis là, il y avait différentes destinations qui étaient proposées. Puis pour moi, c'était un peu farfelu de penser que c'était accessible comme projet. Puis j'ai dit un peu à la blague à mes amis, hey, je pense que je vais aller faire, que l'année prochaine, je vais aller dans un autre pays faire mon secondaire 4. Puis l'ami qui était avec moi à ce moment-là m'a répondu très sérieusement, si tu y vas, va en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un beau pays, c'est là qu'ils ont fait le Seigneur des Anneaux. Mais le ton sur lequel il me l'a dit, pour lui...
Tolkien, OK.
mais en fait, moi, ce qui m'a... Tu sais, l'effet papillon, là, des fois, il y a une toute petite chose qui change le cours de ta vie. Pour moi, ça a été mon effet papillon. Le fait qu'il m'ait répondu comme si c'était tout à fait possible, puis que c'était pas farfelu comme idée, juste le ton sur lequel il m'a répondu, je me suis dit, hey, dans le fond, il trouve pas ça con comme idée, c'est peut-être plus réaliste que ce que je pense. Puis à partir de là, j'ai commencé à considérer sérieusement l'option, j'ai fait des recherches sur Internet, puis un soir, je suis arrivé devant mes parents, j'ai dit, papa, maman, fermez la télévision, faut que je vous parle, j'ai un projet, c'est sérieux. Puis là, j'avais mon dossier de prête, où est-ce que j'avais fait tout mon argumentaire, j'avais essayé de répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir, autant sur la logistique, sur le côté financier de la chose, etc. Puis je pense qu'ils ont resté surpris du sérieux avec lequel j'ai abordé cette idée-là. Je pensais qu'ils me diraient non. Puis finalement, tout mon père a dit « Wow, c'est vraiment une belle opportunité, tu devrais le faire ». Et je pense que mes parents, si j'ai eu une chance dans la vie, c'est d'avoir des parents qui ont toujours voulu qu'on s'épanouisse, moi et mes frères, puis qui nous ont pas mis de frein.
Oui. C'est quoi justement l'image? Vos parents, ils faisaient quoi? Vous avez des frères? Vous avez pas de sœurs?
Non, on est trois gars.
OK.
J'ai une famille très, très québécoise, très typique, là, c'est-à-dire que du côté de ma mère, il venait de l'Abitibi. Mon grand-père, c'était un camionneur qui travaillait dans l'industrie forestière. Du côté de mon père, c'était plus des agriculteurs de la Naudière. Famille très francophone, d'origine catholique. J'ai grandi toute ma vie à Laval. Mon père a fondé une entreprise. Il y avait une PME qui faisait des cadres, des portes en acier. Puis il y en avait une deuxième qui faisait des pièces en acier inoxydable, là, un peu comme de l'ébénisterie, mais dans le métal. Donc, on faisait un peu n'importe quoi sur mesure en acier inoxydable. Et moi et mes deux frères, on a travaillé toute notre jeunesse avec mon père dans son entreprise. Ma mère faisait la comptabilité, donc une petite entreprise familiale. Moi, adolescent, on partait les cinq dans le pick-up, puis on allait tous travailler à l'usine de mon père. Donc, j'ai grandi beaucoup sur des planchers d'usine. Et c'était une belle expérience de vie qui m'a forgé.
On peut pas parler au maire de Laval sans lui demander c'était quoi Laval pour toi quand tu étais petit? Ton souvenir de Laval à ce moment-là?
Bonne question. Moi, j'ai passé ma jeunesse à me promener en vélo dans le quartier. J'ai grandi à Vimont. J'étais à Horizon Jeunesse, qui est plus vers Auteuil-Sainte-Rose. Pour moi, ma jeunesse à Laval, c'était de me promener en vélo le soir après l'école, prendre mon vélo, partir, aller cogner à la porte de mes amis, puis de chiller dans la cour de mes amis. J'ai vu Laval se développer un peu. Je me rappelle, entre autres, là, avant la 19, c'était un champ. On allait se promener là en vélo, puis à un moment donné, est arrivé de la grosse machinerie qui ont commencé à étendre la garnotte, puis hop, là, c'est rendu une autoroute. OK, on peut plus aller faire du vélo là. Donc, j'ai vu Laval se transformer au fil du temps. Mais une jeunesse qui s'est bien passée, puis sans trop d'histoire.
Après votre séjour en Nouvelle-Zélande, est-ce que vous êtes revenu ici ou si vous avez continué, parce que vous avez fait d'autres voyages après aussi pour des études, d'après ce qu'on a compris?
Oui. Donc, secondaire 4, je pars en Nouvelle-Zélande, j'ai vu une expérience incroyable là-bas avec une nouvelle famille, j'apprends une nouvelle langue, je me fais de nouveaux amis. Pour moi, ça a été vraiment formateur comme expérience. J'ai surtout développé ma confiance en moi. J'étais un peu un jeune sans histoire, c'est-à-dire que dans la classe, j'étais pas celui qui avait les meilleures notes, j'étais pas non plus le tannant, j'étais un peu le jeune qui passait inaperçu, là, très dans la moyenne, là, qui faisait pas trop de vagues. Mais quand après avoir parti pendant un an, c'était pas facile, parce que des fois, tu t'ennuies, tu te remets en question sur tes choix. D'étudier dans une autre langue aussi, c'est difficile, c'est très exigeant. Donc, des fois, tu te demandes pourquoi tu as fait ça. Puis quand je suis revenu avec plus de confiance en moi, en me disant « Hey, j'ai réussi à faire ça. J'ai appris une autre langue. J'ai réussi à vivre ailleurs. » Ça, je pense, ça m'a donné l'énergie, l'essence pour me lancer dans d'autres projets par la suite. Mais j'ai eu un premier obstacle, c'est qu'à mon retour, on m'a dit que je devais recommencer mon secondaire 4 parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître les cours que j'ai fait en Nouvelle-Zélande. Alors qu'avant de partir, on m'avait dit que mes cours seraient reconnus. Pour moi, c'était important. Je ne voulais pas prolonger secondaire pour rien. Donc là, j'ai négocié avec mon école pour dire non, c'est pas vrai que je vais refaire mon secondaire 4 au complet. Et l'entente que j'ai faite avec eux, c'est que j'allais faire juste les cours nécessaires pour rentrer au cégep. Donc j'ai fait un peu un programme chargé là, où je combinais toutes les cours nécessaires de secondaire 4 et de secondaire 5 pour rentrer au cégep dans la même année. Donc j'ai fait ça. Puis une fois que j'ai fini mon secondaire 5, j'ai pris une année sabbatique pour faire un deuxième grand voyage qui était d'aller en Afrique du Sud travailler pour les ambulances. Par l'entremise d'un programme qui s'appelait Jeunesse Canada Monde, qui est un programme financé par le gouvernement du Canada.
Oui, qui était très populaire à l'époque, effectivement. Ouais. Ouais. Travailler pour les ambulances, vous faisiez quoi?
Donc, en fait, j'ai. La façon que ça fonctionne, le programme, c'est qu'on est un groupe d'environ 18. La moitié du groupe, c'est des Canadiens, puis l'autre moitié, c'est des jeunes de l'autre pays. Dans mon cas, le pays où on allait, c'est l'Afrique du Sud. Donc, on passait 3 mois dans une communauté canadienne. Et ensuite, tout le groupe, on allait 3 mois en Afrique du Sud. Au Canada, je suis allé en Alberta, dans un petit village qui s'appelait Lacombe. J'ai travaillé dans une école où est-ce qu'on a revitalisé une cour d'école. C'est-à-dire une vieille cour d'école avec plein de graffitis, tout asphalté. Nous, on a fait un projet où est-ce qu'on est venu faire des murales avec les jeunes. On a planté des arbres, on a installé des modules de jeu. Puis en Afrique du Sud, en fait, c'est spécial hein, parce qu'on est arrivé là, puis durant notre premier week-end, on devait trouver des emplois. Donc moi puis mon groupe, on s'est promené dans le village et on cognait aux portes des entreprises pour essayer de trouver des gens qui voulaient avoir des bénévoles à temps plein. Et la caserne de pompiers a dit « Ah ben oui, parfait, on va vous prendre 2 bénévoles. Revenez lundi. » Fait que moi, je suis revenu le lundi en pensant que j'allais faire du bénévolat pour les pompiers. Puis ils m'ont dit « Non, vous allez travailler à Centrale du 911 qui était à l'étage au-dessus.
Oh. »
Puis littéralement, on m'a mis devant les téléphones puis les radios. Puis on m'a dit, tu prends l'appel quand il sonne, puis après ça, tu appelles l'ambulance à la radio puis tu l'envoies à bonne adresse.
OK.
Donc, c'était quelque chose. J'ai pas eu de formation. Puis surtout en... Donc, je répondais au 911, littéralement. On couvrait 27 villages. Puis ce qui était particulier, c'est que l'Afrique du Sud, tout le monde parle pas mal l'anglais, mais il y a 11 langues officielles. Donc, moi, dans ma région, il y avait beaucoup d'Afrikaans, de Xhosa, de Zulu. Et les noms des gens, les noms des rues, les noms des villages, c'était souvent dans des langues locales, donc qui étaient dures à prononcer pour moi. Donc, c'est quand même un grand défi de prendre des appels, même si tout le monde se débrouillait en anglais. Tu sais, des fois, je dispatchais l'ambulance en disant « OK, va à telle adresse », il me disait « C'est quoi cette rue-là? » Ça n'existe pas. Donc, là, je rappelais les gens, excusez, j'ai mal noté. Donc, le défi de la langue, dans un pays où il y a une dizaine de langues qui sont parlées, c'était pas évident.
Avec ton anglais d'accent de Nouvelle-Zélande.
Oui.
C'était un beau mélange.
Oui.
Est-ce que ça a toujours été clair dans ta tête que après les voyages, il y avait un parcours universitaire?
Oui. Oui. Pour moi, ça a toujours été clair que j'allais poursuivre vers le cégep, vers l'université. À cette époque-là, je vous dirais, après mon premier voyage en Nouvelle-Zélande, j'avais envie de travailler en tourisme parce que j'aimais travailler avec les gens puis j'aimais voyager. Puis après l'Afrique du Sud, je me suis plus dit, c'est pas juste voyager que je veux, c'est aider les gens. Je veux améliorer la condition de vie des gens. En Afrique du Sud, je vivais dans un quartier très pauvre, en face d'un bidonville, dans un pays qui a été resté marqué par le racisme, par l'apartheid. Mm-hmm. C'était en 2004. À l'époque, ça faisait à peine quelques années que l'apartheid était terminé dans les lois. Mais la société est encore fortement marquée par cette division-là, par couleur de peau. Donc moi, c'était vraiment un voyage très formateur qui en est venu à me dire « OK, moi, ce que je veux dans la vie, c'est travailler en développement international. Je veux travailler dans des pays en voie de développement pour essayer d'apporter des solutions puis de changer les choses pour le mieux. » Donc, je me suis lancé par la suite vers le cégep, vers l'université, en me disant que j'allais travailler en développement international pour l'ONU, l'UNICEF, peu importe, des grandes organisations.
OK, mais à l'université, c'est un programme de communication politique, études des sociétés. Peut-être études des sociétés, là, je comprends, mais...
Oui. Mais en fait... C'était pas ça que je voulais étudier.
Je m'excuse, avant le cégep, est-ce que ça s'est fait à Laval? Je suis curieuse.
Non, j'ai étudié au cégep du Vieux-Montréal.
Ah, c'est correct. En sciences humaines. Juste savoir.
Quand j'étais en Afrique du Sud, à un moment donné, j'avais un appel avec ma famille, puis mon frère m'a dit, Stéphane, t'as-tu pensé t'inscrire au cégep? Parce que les dates limites, c'est cette semaine. Moi, j'étais à fond dans mon aventure en Afrique du Sud. Ça m'avait échappé l'esprit. Fait que j'ai été un peu pris de court. Puis là, mon frère m'a dit, ah, ben si tu veux, dans mon cégep, il y a un programme là où est-ce que tu fais un stage au Guatemala, je pense que ça t'intéresserait. J'ai dit, parfait, inscris-moi là-dedans. Fait que c'est de même que j'ai choisi mon parcours collégial. Mais par la suite, rendu à l'université, ce que je voulais, c'était aller en droit international.
Ouais.
Mais j'ai été refusé. Donc, moi, j'ai une certaine facilité à l'école, mais je suis pas du genre à étudier 5 heures de plus pour avoir 5 % de plus. Je faisais beaucoup d'implications bénévoles. En fait, pendant mon cégep, je me suis impliqué dans la création de 2 OBNL. Une qui aidait des immigrants en francisation, puis un autre qui faisait des jumelages scolaires entre des classes primaires du Québec puis des classes primaires en Afrique. Fait que mes soirées, je les pensais pas à étudier, j'ai pensé à m'impliquer dans des projets qui m'intéressaient. Et on m'a refusé pour point un de cotère, je pense, qui manquait pour entrer dans le programme. Donc, je trouvais ça un peu décevant que c'était basé juste sur la note et pas tant sur la passion puis l'expérience que tu peux avoir en dehors des salles de classe. Mais bon, ça m'a amené à devoir trouver un plan B qui était un programme en communication politique.
Et ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé.
Oui. Mais après ça, vous avez entrepris des études en maîtrise. Vous avez commencé une maîtrise, hein, je crois.
Oui. Mais là, quand on regarde mes dossiers étudiants, je me suis inscrit à beaucoup de choses. Je le disais tantôt, je suis très curieux. J'ai voulu commencer... En fait, j'ai commencé une maîtrise...
Curieux dans quel sens?
Curieux, je m'intéresse à tout.
Ah, OK. Pas curieux, bizarre.
Non. Parce que je pense pas. Vous me le direz à la fin de l'émission. Mais curieux parce que je m'intéresse à tout dans la vie. Puis pour moi, un des grands défis, c'est que quand tu choisis quelque chose, c'est aussi d'autres portes que tu fermes. Et ça, je trouve ça difficile parce que moi, je veux tout apprendre sur tout. Et bon, après le bac, je me suis inscrit dans une maîtrise en énergie renouvelable, politique publique des énergies renouvelables à Carleton, en Ontario. Mais je me suis aussi lancé en politique municipale. Et donc, je me suis dit, je vais m'inscrire à maîtrise, je vais me lancer dans l'élection, puis je verrai qu'est-ce qui fonctionne. Finalement, les deux ont fonctionné. Donc, j'ai commencé ma maîtrise en Ontario, puis j'ai commencé à devenir conseiller municipal à Laval. Mais j'ai pas terminé la maîtrise. C'était un peu dur à concilier en termes de distance,
de disponibilité
d'horaire,
aussi,
exact,
ouais.
De disponibilité. Mm-hmm, donc, mm-hmm. Je l'ai pas complété. Puis j'ai commencé une maîtrise aussi en gestion stratégie. Puis après ça, je suis devenu maire. Donc,
bon,
c'est ça, une autre maîtrise que j'ai pas finie. Ouais. Donc, j'ai commencé 2 maîtrises non finies.
Vous avez aussi écrit un certain nombre de livres sur des problématiques, des sujets qui vous intéressaient particulièrement.
Oui.
Est-ce que ça a été publié ou.
Oui, donc mon premier livre, ça a été. En Afrique du Sud, j'ai vécu beaucoup de choses. Pour mettre le contexte, là, l'Afrique du Sud, pendant 100 ans, les lois étaient racistes et divisaient la population en 3 catégories de personnes, les Blancs, les Métis et les Noirs. Donc, par exemple, dans les magasins, les Noirs ou les Métis ne pouvaient pas entrer dans certains magasins. Ou par exemple, il y a des restaurants qui servaient uniquement la population blanche, puis si t'étais Métis ou Noir, puis tu voulais de la nourriture de ce magasin-là, tu allais dans la porte, dans la ruelle derrière pour avoir un repas pour emporter. Tu pouvais pas te marier si la personne n'était pas de la même couleur que toi. Puis même les villes sont divisées par couleur. Donc, tu as des quartiers blancs, tu as des quartiers métis, puis tu as des quartiers noirs, qui sont souvent physiquement séparés par des champs, des rivières, des rails de chemin de fer. Et bon, Nelson Mandela, en 94, quand il a pris le pouvoir, a aboli ces lois-là. Mais pendant 100 ans, la population était divisée. Et moi, quand je suis arrivé là, ça faisait quelques années que les lois avaient été abolies, mais les villes étaient encore divisées par couleur et tout le monde était marqué de ces expériences-là. Moi, j'étais le premier blanc à aller vivre dans le quartier métis. Donc, il y avait des réactions positives puis négatives. Il y a des gens qui disaient « Enfin, c'est fini le racisme, on commence à se mélanger » puis étaient super contents de pouvoir me rencontrer puis tisser des liens avec moi. Puis l'autre moitié de la population qui disait « Hey, tu vas en baver. » Pour eux, j'étais juste comme un blanc parmi d'autres, mais il avait été persécuté par la population blanche d'Afrique du Sud. Donc, il ne faisait pas beaucoup la différence du fait que j'étais Canadien ou que j'avais rien à voir avec l'histoire raciste du pays. Donc, j'ai souvent eu des menaces de mort. Ou si je vivais dans un quartier très pauvre, où est-ce que c'était assez régulier de se faire attaquer, je me prenais le soir avec un couteau dans la main. Donc, j'ai vécu beaucoup d'expériences qui pouvaient être assez traumatisantes.
Mm-hmm.
Donc, quand je suis revenu, j'ai voulu mettre ça sur papier pour moi. Donc, j'ai écrit un peu mes mémoires de mon voyage. Puis, je me suis essayé. Puis, j'ai finalement, l'éditeur, là, il y a un éditeur qui a accepté de publier comme un récit de voyage. Donc, j'ai publié un premier livre sur mon voyage en Afrique du Sud. Puis, par la suite, là, dans les dernières années, j'ai publié deux autres livres avec d'autres élus municipaux du Québec sur plus le développement durable. Puis, l'idée d'avoir des quartiers sans voiture qu'on pourrait développer différemment pour pas juste réduire notre impact en termes environnementaux, mais aussi économiser sur le coût des infrastructures, puis créer des milieux de vie qui seraient plus animés, où est-ce qu'il y aurait plus d'interactions humaines.
Est-ce que ton père avait une entreprise, t'as travaillé dans son entreprise, t'as fait des voyages, t'as écrit des livres, t'es devenu politicien, tu te considères quoi, un entrepreneur, un intellectuel, politicien, toutes ces réponses?
Très bonne question.
À devenir?
Très bonne question parce que souvent, on essaie de... Quand on rencontre quelqu'un, on essaie de rapidement lui mettre une étiquette, le mettre dans une boîte. Puis pour moi, ça n'a jamais été clair c'était quoi mon étiquette. J'ai réalisé dans les dernières années que le point commun dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'aime trouver des solutions. Puis, tu sais, pendant mes études, je voulais aller en développement international. La vie m'a emmené vers la politique, chose que je pensais pas que j'aurais fait, mais que je suis là pour l'instant. Mais j'ai aussi beaucoup, j'ai toujours adoré l'entrepreneuriat. Je me suis déjà impliqué dans des projets d'entreprise en démarrage. J'aimerais ça un jour avoir mon entreprise. Puis le point commun dans toutes ces choses-là, moi, c'est que j'aime prendre un problème et trouver c'est quoi la solution. Puis ça, apporter des solutions, ça peut se faire par entremise de la politique, ça peut se faire par entremise d'une entreprise que tu développes une solution, que ce soit en termes de services ou de produits, ou que ce soit à travers le communautaire ou les relations internationales. Mais moi, ce que j'aime, c'est de prendre un enjeu de société puis de dire, OK, comment est-ce qu'on apporte une solution à ce défi-là? Mm-hmm. Je pense que c'est ça le fil conducteur dans mes implications.
Il y a eu aussi des activités, je dirais, de sensibilisation à laquelle vous avez participé, entre autres sur l'autisme. Pourquoi l'autisme? Est-ce que c'est parce que vous aviez des gens dans votre entourage ou c'est une cause qui vous tient à cœur?
Oui, en fait, j'ai marché du Rocher Percé au Mont-Royal sur 1000 km pour parler de l'autisme puis pour ramasser de l'argent. Comment ce projet-là est né? En fait, j'avais envie de faire un voyage à pied. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée-là, mais j'avais envie de marcher.
Méchante marche.
Et là, on m'a parlé du chemin de Compostelle en Espagne, qui est un pèlerinage plus que centenaire que les gens aiment bien faire. Fait que j'ai envisagé faire le chemin de Compostelle, mais plus je lisais là-dessus, plus je me rendais compte que c'était peut-être pas vraiment ce que je recherchais. C'est-à-dire qu'en été, c'est un chemin qui est très, très, très populaire. Et là, on me disait, il faut que tu te lèves souvent tôt pour être sûr d'avoir une place en auberge le soir. Puis des fois, il y a des segments du trajet que tu peux être bumper à bumper sur le sentier, là, que les gens, que des fois, les gens font quasiment la file en marchant parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont l'emprunter. Mais moi, je pense que c'était une envie de liberté. Je voulais pas me casser le bicycle. Je voulais pouvoir juste découvrir un endroit à mon rythme, en marchant. Et à ce même moment-là, j'avais des amis qui travaillaient dans des organismes qui venaient en aide aux familles qui ont des jeunes autistes, entre autres avec des camps de répit. Puis quand ils me parlaient de ça l'impliquait quoi avoir un enfant autiste, puis c'est sûr, il y a tout un spectre, mais ils travaillaient avec des jeunes autistes qui souvent que c'est des cas un peu plus lourds, qui combinaient plusieurs déficiences ou problèmes. Puis ça m'a fasciné comment est-ce que ça peut être exigeant pour un parent. Mm-hmm. Quand tu as un jeune qui a un enjeu physique ou mental, ça peut être extrêmement exigeant pour la famille. Donc, ça m'a touché, puis je me suis dit, ben tu sais quoi, finalement, au Compostelle, je vais le faire au Québec, puis je vais le faire pour une bonne cause. Donc, j'ai eu cette idée-là de me dire, OK, ben je vais partir du Rocher Percé, puis je vais marcher jusqu'à Montréal, puis je vais m'arrêter dans toutes les villes sur le passage pour essayer de parler de l'autisme. Et de ramasser de l'argent pour des organismes qui viennent en aide aux familles. Donc, j'ai fait ça, puis c'était une des plus belles expériences de ma vie. Entre autres, parce que j'avais jamais vécu un aussi grand sentiment de liberté. quand tu voyages en marchant, moi, j'avais rien à planifier. J'avais une tente, j'avais de la nourriture dans mon sac à dos. De temps en temps, je tombais sur des gens qui m'invitaient à dormir chez eux le soir. Mais j'étais indépendant. Si je ne trouvais pas nulle part où dormir, je plantais ma tente sur le bord de la 132 dans le bois. Et donc, je me levais quand je voulais me lever. Je partais à marcher quand ça me tentait de marcher. Puis je marchais toute la journée. Puis des fois, je faisais des belles rencontres, mais je n'avais pas à planifier de logistique ou d'hôtel ou de billets d'avion ou d'autobus. Et c'était vraiment un sentiment de liberté que j'avais jamais vécu auparavant puis que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment spécial.
Combien de temps ça vous a pris?
42 jours.
42 jours, OK.
Puis là, Stéphane Boyer n'était pas connu?
Non.
Entre Percé et le Mont-Royal, comment tu faisais pour pouvoir parler de l'autisme, rencontrer des personnes qui pouvaient peut-être faire une différence?
J'étais jeune, c'était ma première expérience d'essayer de parler d'un enjeu.
C'est un peu drôle quand tu dis que tu étais jeune parce que tu as l'air encore très jeune.
Oui, je sais. C'était en 2009, je crois, à l'époque. J'avais 19 ans, quelque chose comme ça, 18-19 ans. J'étais pas connu, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé des T-shirts qui disaient « Marché Québec pour l'autisme ». Puis là, dans le dos, j'avais la liste des principales villes par lesquelles je passais. J'avais des fanions sur mon sac à dos. Puis de temps en temps, je rencontrais des gens, puis je leur parlais de mon projet. Puis eux, des fois, ils m'ouvraient la porte. Puis ils disaient « Je connais un journaliste à Rimouski. Quand tu es rendu là-bas, appelle-le.
Okay. »
J'avais aussi quelqu'un qui m'avait aidé dans le réseau québécois, qui avait fait circuler là, une note dans les différentes radios de la Gaspésie. Donc, à chaque ville que je passais, souvent, je réussissais là, à être invité dans une radio locale ou dans les médias locaux pour parler de mon projet. Et donc, j'ai si c'était à faire aujourd'hui, c'est sûr que je le ferais. Je pense que ça aurait une toute autre ampleur parce que j'ai une meilleure expérience de comment organiser des levées de fonds, comment mobiliser des médias sur un enjeu.
Oui, la notoriété, pas la même. Hein?
La notoriété, exact. Mais je suis fier de ce que j'ai réalisé à l'époque. Puis c'est des gens que j'ai rencontrés sur la route qui m'ont beaucoup aidé. Souvent, le soir, ce qui se passait, c'est que... Une des choses que les gens me demandent souvent, c'est comme comment tu faisais pour trouver un endroit où dormir? Parce qu'une nuit sur deux, il y avait des gens qui m'hébergeaient. Puis c'était assez simple, c'est que quand je m'arrêtais le soir dans un dépanneur pour me trouver quelque chose à manger, souvent, les gens voyaient mon chandail, puis là, ils me posaient des questions. Puis il y a toujours la question qui venait, mais où tu dors?
Okay.
Puis là, souvent je trouve des hommes charitables qui m'hébergent. Donc là, à ce moment-là, la plupart des gens, ils disaient t'as-tu quelque part où aller ce soir? Non, ben viens chez nous. Fait que là, je rencontrais des gens comme ça, puis eux, ils m'ouvraient des portes. C'était pas rare que les gens, ils allaient m'introduire à un cousin ou un frère ou un ami dans le village suivant qui, lui, allait m'héberger ou allait m'aider pour faire parler de la cause. Donc, c'était au gré des rencontres que je saisissais des opportunités.
Quand il y a eu ce parcours-là, à ce moment-là, la spondylarthrite n'était pas présente dans votre vie.
Non.
Non, ça s'est déclaré à quel moment?
Ça s'est déclaré à peu près mi-vingtaine. Donc, à la fin de mon université, j'ai commencé à avoir des douleurs, un peu en la jonction entre le bas du dos et les hanches. À l'époque, je travaillais au Festival Jazz à Montréal, puis je venais de Laval en patin à roues alignées. Donc, c'était quand même un bon trajet. Puis, fait que j'ai pensé sur le coup que c'était parce que je faisais trop de patins à roues alignées. Donc, j'ai arrêté d'en faire. C'est parti. Les douleurs sont parties. Et donc, ça, c'est durant l'été. À l'automne, je suis allé étudier au Mexique. Puis là, au Mexique, c'est revenu. Puis le matin, j'avais vraiment mal. Je devais me tenir sur le mur pour pouvoir marcher. Mais ensuite, les douleurs disparaissaient.
Okay.
Donc, c'était pas clair ce que j'avais. J'ai rencontré un médecin au Mexique. On m'a diagnostiqué que c'était probablement une blessure sportive qui a de la difficulté à récupérer. Puis par la suite, en revenant au Québec, c'est encore revenu. Puis à un moment donné, j'étais dans un centre d'achat avec des amis. Puis mes jambes ont juste flanché. Puis j'ai tombé à terre, puis j'étais plus capable de marcher. Puis là, mes amis sont venus me chercher une chaise roulante. J'habitais à l'époque sur le plateau Mont-Royal, au troisième étage, avec des belles escaliers en colimaçon. Puis il y a des jours où je me sentais totalement bien, puis il y a des jours où c'était juste douloureux, puis j'étais pas capable de rester debout. Puis je me rappelle à l'époque, quand je prenais l'autobus, j'étais tout le temps un peu gêné, parce que des fois, c'était dur pour moi juste de prendre l'autobus. Puis là, il n'y a pas de place assise, Mais tu sais, quand t'es un jeune de 23-24 ans, puis t'as pas de canne, puis t'as pas rien, de dire « donnez-moi la place, le fauteuil pour les personnes aînées ou handicapées à l'avant », c'était comme un peu gênant. Puis tu sais, les gens, ils pensaient que j'étais juste un jeune paresseux qui voulait prendre la place des autres.
Ouais.
Donc c'est un peu comme ça que j'ai eu mon introduction à la maladie. Ça a pris au final deux ou trois ans avant d'avoir le diagnostic, puis après ça, un 2 ou 3 ans avant d'avoir la bonne médication qui a cessé les douleurs.
Donc, ça se contrôle. Pardon. Ça se contrôle. Je pense pas qu'on peut le guérir complètement.
C'est ça. C'est une maladie que je risque d'avoir toute la vie. Dans le fond, c'est mon système immunitaire qui attaque ma colonne vertébrale parce qu'il pense que c'est un corps étranger. Donc, ça crée de l'inflammation, puis ça crée de l'excroissance des vertèbres. Donc, les os peuvent se souder ensemble.
Oui, oui, oui.
Mais c'est l'inflammation qui crée de la douleur. Puis cette inflammation-là, à l'époque, c'était ça. Il y a des jours, quand il n'y avait pas d'inflammation, je me sentais bien. Puis les jours où il y a de l'inflammation, une crise d'inflammation, c'est là que j'étais plus capable de marcher. Aujourd'hui, j'ai des... C'est comme des injections, en fait, c'est la même injection pour la maladie de Crohn, les psoriasis, oui. La spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est une injection qui affaiblit le système immunitaire. Donc, il fait en sorte que mon système immunitaire est moins apte à m'attaquer moi-même.
Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ça implique qu'il y a des activités que tu dois ajuster?
Avant d'avoir ces injections-là, oui, j'avais une canne, puis il y a des jours que j'étais pas fonctionnel. Là, maintenant, je suis vraiment... c'est presque comme si j'avais rien. À une seule exception, je suis plus capable de rester debout longtemps, surtout sur une surface dure. Donc, faire une randonnée, ça va, mais faire un 5 à 7, ça va pas.
C'est ça, j'allais vous demander.
Et là, c'est mon grand défi, c'est que quand tu es élu... Une partie de ton travail, c'est de gérer ta municipalité, donc dans des prises de décision, des conseils municipaux, des réunions avec les fonctionnaires. Mais une partie, c'est aussi de représenter tes citoyens et de représenter ta ville. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'événements, que ce soit des soirées de levée de fonds, des soupers spaghettis, des 5 à 7 de chambre de commerce. Donc, je passe beaucoup de mes soirées dans des événements où je dois être debout, juste à jaser avec les gens. Puis pour moi, ça, c'est mon défi en ce moment parce que après 30 minutes, 45 minutes, je vais commencer à avoir des douleurs, donc je dois m'asseoir. Puis quand tu ne veux pas être dans un événement où tout le monde est debout à réseauter puis que le maire est dans le coin assis, ça donne une drôle d'image. Mais donc, dans mon premier mandat, j'en avais pas parlé. Puis là, souvent, j'allais dans le backstore prendre une pause ou je sortais de l'événement, j'allais m'asseoir quelque part, j'en profitais de lire des courriels. Donc, je m'étais développé des petits trucs parce que je voulais pas que les donner une image... justement d'être le maire assis dans la pièce qui est un peu paresseux.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai fait mon coming out, puis je l'ai juste annoncé publiquement que j'avais cette maladie-là pour que les gens comprennent pourquoi. Et c'est une bonne chose parce que là, aujourd'hui, quand je vais dans des événements, souvent les organismes, ils ont prévu le coup, ils m'ont prévu un petit tabouret, les gens comprennent, puis ça me permet de m'adapter pour pouvoir mieux vivre ces événements-là.
Ça se guérit pas, cette maladie?
Non.
Ça se contrôle, c'est ça.
C'est ça. Donc là, c'est comme les symptômes sont contrôlés par la médicamentation que j'ai, mais c'est normalement quelque chose qui demeure à vie, qui peut évoluer plus rapidement ou moins rapidement, dépendamment des personnes.
Est-ce qu'il y a des situations, par exemple, de stress ou des choses comme celle-là qui vont faire que ça va s'intensifier, que vous allez perdre un peu le contrôle que vous avez présentement?
Ouais. J'ai de la misère à identifier. Souvent, on me pose la question, si t'es stressé, est-ce que tu ressens plus ces symptômes ou quand il fait plus froid ou quand c'est plus humide? C'est un petit peu... J'ai jamais réussi à vraiment dire si oui ou non. Il y a des moments que je sais que je fais plus d'inflammation, mais c'est que c'est pas une corrélation directe. C'est pas parce que je vis un stress cette journée-là que cette journée-là, je vais avoir de la douleur.
Mmh.
Je voyais avant mes médicaments, vers la fin, quand je serais encore allé dans mon père, puis j'étais pas médicamenté, je me rappelle un soir, j'avais aidé mon frère à refaire sa toiture. Donc, dans des positions souvent accroupies, puis ce soir-là, je faisais juste essayer d'enlever mes bas, puis je pleurais de douleur. Donc, je sais qu'il y a un lien entre les mouvements que je fais dans la journée, puis peut-être le stress. Mais depuis que je suis médicamenté, ça contrôle beaucoup. Ça élimine beaucoup des symptômes. Puis je ressens moins... de douleur.
Est-ce que je comprends bien que tu pourrais refaire percer Mont-Royal sans problème, mais que si on t'accueillait à la fin de la journée pour un 5 à 7, là, il y aurait un problème?
Oui. Mais en fait, l'inflammation, elle vient souvent au repos. Et c'est ça que je comprenais pas au tout début. Quand j'ai commencé à avoir les symptômes au Mexique, puis quand je travaillais au Festival de jazz, je comprenais pas, parce que souvent, c'est le matin. Mettons, au Mexique, j'ai de la misère à marcher, à me lever. Là. Je devais me tenir sur les murs. Puis ensuite, ça disparaissait. Mais en fait, c'est ça. C'est que l'inflammation, elle vient quand ton corps est au repos. Donc souvent, le soir, en fin de journée, quand t'es fatigué. Mais quand t'es dans le feu de l'action, puis que tu bouges, là, souvent, l'inflammation disparaît un peu naturellement.
Est-ce que cette situation-là t'amène à regarder la gestion de la ville de Laval différemment? Est-ce que ça, ça a un apport en disant, je sais pas moi, tel projet, il faudrait peut-être penser à des gens qui vivent des situations particulières?
Je pense pas que ma maladie en tant que telle a changé ma vision, mais d'avoir la maladie ou pas, change pas le fait qu'on essaie d'avoir une ville qui va être adaptée pour tout le monde. Notamment pour les personnes aînées, là, il y a beaucoup de choses qu'on a faites dans les dernières années à Laval. On est en train de faire de plus en plus des sentiers dans nos boisés qui sont accessibles universellement. Donc, avoir des sentiers où est-ce que, même si tu as une canne, même si tu as une marchette, même si tu as une chaise roulante, que tu puisses les emprunter. Donc, ça nécessite, c'est pas compliqué à faire, mais ça change la vie de ceux qui peuvent l'emprunter.
Énormément,
donc, c'est juste d'avoir des petits sentiers sans racines avec du gravier compacté qui va être accessible à quelqu'un qui a un support à la mobilité. Le transport en commun, on a mis le transport en commun gratuit pour les 65 ans et plus depuis déjà plusieurs années. On sait que des fois, en vieillissant, quand les facultés visuelles diminuent, on peut perdre notre permis de conduire. Donc là, ça crée de l'isolement social. Donc, on s'est dit, on va donner un transport gratuit pour nos aînés. Puis, quand on a mis ça en place, on a vu, en fait, ça a doublé le nombre de personnes âgées qui prenaient le transport en commun à Laval.
Mm-hmm, sûrement.
Et ce que les gens nous disaient, c'est qu'ils sortent beaucoup plus souvent maintenant que c'est accessible pour eux. Donc, maladie ou pas, on essaie de faire une ville qui est inclusive puis qui va avoir des services puis un aménagement qui va être accessible à tout le monde.
Parlons donc de politique, parce que c'est sûr que on regarde ton cheminement jusque-là, puis c'est évident que ça s'en va vers la politique. Comment est-ce que t'en es arrivé à décider que tu voulais t'impliquer dans ta ville de façon politique, comme conseiller municipal?
J'ai quasiment envie de dire que c'est pas une erreur de parcours, mais je pensais pas faire de politique plus jeune. Dans ma famille, il n'y a personne qui fait de la politique.
Personne qui faisait des voyages non plus.
Personne qui faisait des voyages, non, c'est ça. Donc, j'ai pas grandi avec ça. Mais moi, c'est vraiment, durant mes études, c'est ça. Je voulais aller en développement international pour essayer d'apporter une contribution positive à la société. Fait que c'est vraiment ça qui me motivait à l'époque. Puis là, vers la fin de mes études universitaires, a commencé à avoir les scandales avec G20 en cours, les scandales de corruption à Laval. C'est sûr qu'ayant grandi à Laval, ben moi, ça venait me chercher, là, puis je trouvais ça choquant comme citoyen. Et je raconte souvent cette anecdote-là, mais je me suis dit, un moment donné, je vais aller voir au conseil de ville comment ça fonctionne, tu sais, un conseil de ville.
Ouais.
Puis à l'époque, il y avait un citoyen qui était venu poser une question. Puis il voulait savoir c'est quoi la stratégie de la ville pour développer plus de logements sociaux, de logements abordables. Puis le maire Vancourt s'était juste levé, puis il a dit « Continuez votre question, je vais aux toilettes », puis il est sorti de l'Assemblée, mais c'était vraiment...
Irrespectueux,
puis c'était vraiment de dire « Je m'en fous de ta question ».
Ça
m'avait choqué.
C'était ton premier contact avec la politique municipale? Oui,
c'est la première fois que je me suis intéressé à la politique municipale.
Félicitations.
Donc, fait que là, c'était comme un mix où est-ce que j'avais constaté cette scène-là. Je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Puis ça, il y a eu tous les scandales de corruption. Donc, comme citoyen, ça me fâchait. Puis je me suis dit, OK, ça se peut pas que ça soit ça, ma ville. Et donc, j'ai commencé à m'impliquer bénévolement avec un parti qui avait été créé quelques années avant, qui n'avait pas d'élu. Puis de fil en aiguille, il y a eu la commission Charbonneau, le maire Vancourt est parti, il a été arrêté. Tous les élus qui étaient en place là, ont quitté leurs fonctions. Puis en 2013, à Laval, c'était un peu comme un grand printemps démocratique où est-ce que le maire qui était là depuis 21 ans en place, quittant, tous les espoirs renaissaient de voir un changement politique à Laval.
Sans faire une révolution pour autant.
Non, mais il y a eu 5 partis politiques qui se sont créés.
Oui.
Il y a eu un déluge de personnes qui se sont présentées candidats, candidates. Et moi, ben, c'est ça, j'ai commencé à faire du bénévolat pour un parti qui était essentiellement des citoyens qui étaient contre Gervais Encourt, qui s'étaient unis dans un parti. Et là, on m'a demandé, Stéphane, t'entends-tu te présenter? On a besoin de candidats, candidates.
Bien sûr.
Et je me suis dit, pourquoi pas?
Est-ce que vous avez, avec le recul, là, est-ce que vous avez été surpris de cet élan que vous avez eu? Parce que, je vous écoute, vous êtes à Laval, vous partez très jeune pour aller étudier à l'étranger, vous revenez, vous vous impliquez à Montréal, après ça, vous allez dans des... faire la traversée, c'est pas une traversée, mais en tout cas l'expédition Gaspésie-Montréal, et puis tout à coup... vous avez un appel de Laval. Est-ce que vous êtes surpris de cet élan-là où vous voulez vous retrouver vos racines d'une certaine façon?
Moi, j'ai toujours suivi mon cœur. Tu sais, j'ai pas... Des fois, il y a des gens qui essaient de tout planifier leur vie puis ils se disent, OK, je vais devenir médecin, je vais faire ça. Puis ils ont comme un plan de vie qu'ils essaient de suivre. Moi, j'ai jamais eu de plan en tant que tel.
Non, mais pourtant, à ce moment-là, vous savez que vous avez une maladie inflammatoire auto-immune.
Oui, ça a commencé dans ces années-là. Oui, exact. Ben, en fait, quand je me suis lancé en politique, j'avais les problèmes, les douleurs, mais je ne savais pas encore c'était quoi que j'avais. Okay. Donc, ça a pris 2 ans à peu près avant d'avoir le diagnostic.
Il y a une certaine inquiétude à ce moment-là quand même.
Oui, c'est ça. Ça n'a pas freiné votre élan.
Ben, oui, puis non, dans le sens que oui, j'avais des problèmes, mais pour moi, c'est pas ça qui allait m'arrêter, puis la vie allait continuer, peu importe c'était quoi mon problème. Donc, ça m'a pas freiné. Ce qui m'a... mes inquiétudes, c'est plus par rapport à mon âge. Quand je me suis lancé... Ben, en fait, moi, j'ai grandi à Vimont-Auteuil. Et quand mon parti politique m'a demandé « Ça tente-tu de te présenter? On a besoin de candidat-candidate? » J'ai dit oui, mais je voulais pas me présenter dans mon quartier parce que dans mon quartier, je voyais pas vraiment qu'est-ce que je pouvais améliorer. C'est-à-dire que c'était quand même un quartier qui allait bien. Moi, je voulais me présenter dans Pont-Viaud, parce que Pont-Viaud, c'est un quartier qui est plus démuni, qui a beaucoup d'enjeux, intégration sociale, les berges de la rivière, le métro qui venait d'être construit, la prostitution. Il y a beaucoup d'enjeux de société sur lesquels je me disais, « Hey, à Pont-Viaud, je vois une contribution, je vois des enjeux de société sur lesquels j'aimerais travailler. » Donc, j'ai décidé de me présenter dans ce quartier-là. Mais j'habitais pas Pont-Viaud. Puis quand je faisais mon porte-à-porte, il y a deux questions qui revenaient beaucoup. C'était, « Est-ce que tu habites le quartier? » Là, je répondais aux gens, je disais, ben, est-ce que vous voulez savoir si je dors dans le quartier ou vous voulez savoir si j'ai à cœur le quartier? Puis l'autre chose, on me parlait beaucoup, beaucoup de mon âge. J'avais à l'époque, je crois, 23, 24 ans, mais aussi j'ai un baby face, j'ai pas de barbe, j'avais l'air très jeune. Et j'avais peur que l'âge soit un frein. Puis j'avais peur que les gens ils votent pas pour moi à cause de ça, parce que parfois on peut associer la jeunesse au manque d'expérience. Mais j'ai travaillé fort tout l'été durant les élections. Puis j'ai été agréablement surpris de voir que ça n'a pas été un facteur. On m'en a beaucoup parlé, mais j'ai quand même gagné mon élection. Une majorité de gens qui ont voté pour moi. Puis j'avais 2 autres collègues qui étaient eux aussi dans la mi-vingtaine qui ont gagné eux aussi leurs élections. Fait que je suis heureux de voir que pour bien des citoyens, ça n'a pas été un frein. Puis qu'au contraire, ils voyaient en la jeunesse... en fait, j'aurais pu m'auto-censurer puis ne pas me présenter en me disant je gagnerai jamais parce que j'ai pas l'âge, j'ai pas l'expérience.
Ouais.
Mais j'ai foncé quand même puis j'ai eu la belle surprise de voir que les gens ont quand même voulu faire confiance à la jeunesse.
C'est-tu le même raisonnement que tu as eu au moment de poser ta candidature à la mairie?
Moins, parce que rendu à la mairie, ça faisait quand même 8 ans que j'étais conseiller municipal. Les gens savaient que j'avais été élu, j'avais fait mes preuves d'une certaine façon, je connaissais bien les dossiers à la ville. Ça reste que j'étais une découverte pour beaucoup de citoyens, c'est-à-dire que j'étais très connu comme conseiller municipal dans mon quartier, à Duvernay-Pont-Viaud. Je l'étais moins dans d'autres secteurs de la ville, mais je pense que c'était moins une réflexion que j'avais au moment de me présenter à la mairie, parce que j'étais probablement plus confiant de ma capacité de remporter une élection, considérant que dans mon quartier, j'avais déjà eu deux élections, puis je voyais que c'était pas un frein. Et même, je pense, beaucoup de ce que j'apprécie beaucoup, les aînés ont été un grand support. Moi, je regarde les aînés dans mon quartier, dans les résidences personnes âgées, les taux de vote qui m'appuient sont très élevés. Puis souvent, quand je rencontrais des gens, des aînés, ils voyaient en moi leur petit-fils, leur petite-fille, puis ils ont été des grands supporters de dire, ben, tu sais, vous, les jeunes, vous êtes l'avenir, puis c'est à vous de vous impliquer. Puis j'ai toujours trouvé que c'était beau. Il y avait comme un beau pont générationnel, où est-ce que souvent c'était comme les personnes les plus âgées dans mon quartier qui étaient mes plus grands supporters, parce que pour eux c'est un peu le relais. Tu sais, c'était de dire, ben là, l'avenir vous appartient, vas-y, fonce, on t'appuie. Donc j'ai toujours été touché par cet appui-là.
Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un élan, mais pas juste à Laval? Aussi, on constate qu'il y a de plus en plus des jeunes au municipal, mais aussi au provincial.
Bien, définitivement. Puis oui. C'est peut-être un changement de paradigme qu'on vit dans notre société depuis un certain nombre d'années. Tu sais, dans les années 80, 90, début 2000, il n'y avait pas beaucoup de jeunes élus. Mais en 2021, quand je suis devenu maire, on a beaucoup parlé de la nouvelle vague d'élus.
Oui, oui, tout à fait.
Catherine Fournier sur la Rive-Sud, il y avait Évelyne Baudin à Sherbrooke. Il y a eu beaucoup de jeunes puis beaucoup de femmes qui ont gagné leurs élections en 2021. Donc, je pense que le timing était bon. Aussi, je crois qu'il y a cette ouverture-là en ce moment. Les gens veulent du changement et décident de faire confiance à la jeunesse, faire confiance aux femmes, ce qui n'avait pas toujours été le cas, surtout pas en politique municipale. Moi, je regarde les procès-verbaux des décisions prises au conseil de ville au début des années 2000 à Laval. C'était juste des hommes dans soixantaine. Là. Il n'y avait pas beaucoup de diversité.
Oui, oui, les têtes blanches, comme on disait. Ouais. Oui, oui.
Mon Dieu, plus en visée. Pourtant, j'ai pas de cheveux blancs.
Mais tu fais pas de politique, alors c'est correct.
Aussi, fait que je suis hors d'ordre. Je t'ai posé une question au tout début en disant, ça avait l'air de quoi ton Laval quand tu étais jeune? Monsieur le maire de Laval, aujourd'hui, comment vous voyez Laval évoluer?
Moi, ma vision pour Laval, c'est de... Souvent, c'est d'être agressif à développer la ville, développer son économie, mais aussi être agressif à développer puis à protéger les zones, en fait, à protéger les milieux environnementaux. Donc, la vision qu'on a élaborée avec nos citoyens dans les dernières années, c'est de dire, on va construire. Puis, tu sais, il y a une crise d'habitation. Il faut construire du logement.
Ouais.
On va les construire le long des grands boulevards. On va les construire dans le secteur du centre-ville, là où il y a beaucoup de grands centres d'achat à redévelopper. Puis en contrepartie, ben, on va venir protéger les milieux naturels qui restent dans les quartiers. Donc souvent, il reste des petits boisés à droite puis à gauche qui appartiennent à des propriétaires privés qui pourraient être développés un jour. Mais nous, la ville, on essaie de graduellement toutes les racheter pour venir les protéger. Puis on veut protéger notre zone agricole. Donc c'est un petit peu la vision qu'on a pour Laval, c'est de dire on va être agressif à protéger les milieux naturels, agressif à protéger la zone agricole, puis agressif à développer ce qui peut être développé. Puis je pense que ça, c'est une belle recette où à Laval, par exemple, l'année dernière, on a doublé le nombre de mises en chantier. Avant, ils se construisaient environ 2000 logements. L'année dernière, on a construit 4000. Puis ça, c'est important dans un contexte où il manque de logements, ce qui fait en sorte que les loyers augmentent très rapidement. Mais ça alimente aussi notre économie. C'est plus de taxes pour la municipalité. Puis ces taxes-là, bien, peuvent être réinvesties à faire des projets. Entre autres, racheter les milieux naturels.
Oui, oui, oui.
Quand j'ai été élu, il y avait juste 3 % de l'île de Laval qui était protégée. Aujourd'hui, on est rendu à environ 19 % de l'île de Laval qui est protégée. Puis on poursuit sur cette lancée-là. On a développé des nouvelles infrastructures sportives avec la Place Belle, avec le complexe aquatique. On a un grand projet de centre de création artistique qui est en construction. On a aussi ouvert des centres communautaires à Sainte-Dorothée, à Saint-Bruno, à Saint-François. On a ouvert une plage dans l'ouest de Laval. On a juste dans l'année dernière, je pense, c'est 3 nouveaux parcs qu'on a créés. Et là, en ce moment, au fur et à mesure que les centres d'achat se redéveloppent, on vient exiger de ces centres d'achat-là des terrains qui vont nous permettre de faire des nouveaux parcs, qui vont nous permettre de créer des écoles. Donc, on essaie d'avoir une vision 360 de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des beaux quartiers. Pour créer des beaux milieux de vie où les gens vont se sentir bien, ou avoir des commerces de proximité proches de chez eux. Donc, d'avoir une vision qui est cohérente pour le développement de Laval.
Quelle est la place de l'inclusion dans tous ces développements?
On a adopté un nouveau règlement d'urbanisme en 2022, le 3 ans au début de mon dernier mandat, qui se veut très moderne, entre autres, qui exige une certaine proportion de logements qui vont être accessibles, par exemple, en fauteuil roulant. On a lancé plusieurs initiatives au niveau de l'abordabilité. Donc maintenant, je donne un exemple. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui construisent du logement social, du logement abordable. Puis un de leurs grands défis, c'était de trouver des terrains. Parce que tu ne veux pas un logement social inaccessible aux transports en commun, donc il faut que ton terrain soit bien situé. Et souvent, c'est dur de trouver un terrain à bon prix. Puis quand l'organisme trouvait un terrain à bon prix, le vendeur n'était pas prêt à attendre 2 ans. Ça prend 2 ans souvent à monter un projet, à avoir les subventions de Québec, du fédéral. Et donc, ce qu'il nous disait, c'était c'est difficile de trouver des terrains. Donc, la ville, on a fait parfait, on va vous aider. Nous, on va les acheter les terrains, on va faire une banque de terrains, puis on va être patient, puis on va attendre que vous puissiez monter votre projet. Donc, ça pour dire que à travers nos réglementations, on exige certaines choses aux promoteurs, entre autres au niveau de l'accessibilité physique des lieux. Mais on a des programmes de crédit taxe, de subventions, de banques de terrain qui permet aussi aux organismes de faire du logement qui est plus abordable. Mmh. Et même dans la composition politique au Conseil des villes, depuis quelques années, là, on est la région qui a plus de femmes en politique. On est à parité homme-femme. On a aussi une belle représentativité au niveau communautaire, des diversités culturelles. Au niveau jeunesse, on a des gens de tous les âges. Donc, Laval se transforme, mais on essaie de se transformer à l'image de notre population.
On te présente souvent comme un idéaliste. T'aimes ça ou pas?
J'ai envie de dire moi, j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition pour ma ville. Je veux m'assurer que dans cette ambition-là, on développe Laval avec les meilleures façons de faire, les meilleures pratiques. Donc, j'ai des grands espoirs pour ma ville, mais je suis aussi quelqu'un qui est très pragmatique. Faut que une vision que tu n'es pas capable de réaliser parce qu'elle ne fait pas de sens financièrement ou peu importe.
Ou acceptabilité sociale.
Ou acceptabilité sociale ou politiquement, elle ne se réalisera jamais. Donc, pour moi, c'est important de viser haut, de viser le meilleur pour sa communauté, mais de s'assurer que ça fait du sens. Parce qu'on veut la réaliser, cette vision-là. Moi, je suis pas du genre à... En fait, je suis pas un rêveur.
C'est ça. Donc, l'étiquette, finalement, d'idéaliste.
J'ai envie de dire un visionnaire pragmatique. Je pense que dans la société, souvent, on chiale parce que les choses vont pas bien puis on veut changer les choses. Moi, je suis prêt à réformer les choses puis à faire les changements qu'il faut si on veut apporter des solutions aux problèmes qu'on constate. Après ça, le grand défi, c'est de trouver le bon chemin pour que ça fonctionne.
Comment vous évaluez votre parcours là, depuis la Nouvelle-Zélande, là, tout ce que vous avez fait, tout ça, vous avez déjà un bon baluchon, comme on dit. Comment vous l'évaluez pour ce que vous allez faire par la suite?
Bonne question. Je suis fier du chemin qui a été parcouru. Puis c'est sûr que quand je me ramène à mes années de secondaire, je trouve que, comme individu, j'ai fait beaucoup de chemin. Mais je suis fier aussi des gens que j'ai pu croiser sur ce chemin-là. Puis ça, souvent, je dis beaucoup, moi, une de mes grandes fiertés, c'est l'équipe avec qui je peux travailler au bureau du maire, avec mes collègues élus, avec les citoyens qui, au fil des années, continuent de me faire confiance. Parce que seul, on dit souvent, tu sais, seul, on peut aller vite, mais on va pas très loin.
Ouais.
Surtout quand tu veux changer ou transformer une société, c'est un travail qui est collectif. C'est pas toujours facile. Quand tu prends une décision, tu peux jamais plaire à 100% des gens. Fait que ça vient toujours avec de la critique, avec des défis logistiques, légaux, opérationnels, financiers. Donc, c'est sûr que des fois, tu sais, je vis des frustrations comme humain, c'est-à-dire que ça va pas aussi vite que j'aimerais, que c'est pas aussi facile que j'aimerais, mais j'ai la chance d'être entouré de beaucoup de bonnes personnes. Fait que je suis très, très fier du chemin qui a été parcouru au fil des années.
Et votre maladie n'est pas un frein à tout ce que vous entrevoyez pour la suite?
Pour moi, tant sur tant que ma tête va fonctionner, s'il le faut, je serai un maire Robocop avec un exosquelette, mais moi, je suis quelqu'un de passionné, puis c'est sûr que tant sur tant que la santé va me permettre de continuer. Mon père, en fait, est un bel exemple pour moi de persévérance. Quand il était dans la vingtaine, il a reçu un diagnostic d'une maladie aux intestins. On lui a dit qu'il faudrait qu'il soit opéré, qu'on lui enlève les intestins. Mon père a dit non, moi, c'est pas vrai que je vais vivre avec une poche, puis refuser les traitements. Puis il a dit tant que je ne serai pas absolument obligé physiquement, je ne veux pas avoir l'opération. Puis là, aujourd'hui, il vient de célébrer ses 70 ans ce mois-ci. Il a encore ses intestins. Il est aveugle d'un œil. Pourtant, tu sais, il a perdu la vision en travaillant, mais il a besoin. Le travail qu'il a fait toute sa vie, c'est un travail qui nécessitait quand même beaucoup de dextérité où est-ce qu'il fabriquait des produits. Mais il ne s'est jamais arrêté à ça. Mon exemple, mon père, c'est un bel exemple, je trouve, de persévérance, que dans la vie, on a tous un jour ou l'autre nos enjeux de santé. Mais moi, je veux pas que ça m'empêche de rêver et de continuer.
Ouais, faut vivre avec, comme on dit.
Ouais.
Dernière question. Est-ce que la vie municipale va remplir toutes les idéaux que Stéphane Boyer a devant lui? Je veux pas te piéger en posant cette question.
Écoute, on me demande souvent si on va me retrouver en politique fédérale ou provinciale.
Ouais.
C'est certain que... En fait, j'ai envie de dire... On verra où la vie m'amène. J'aime définitivement la politique. Je trouve ça intéressant. Je m'y plais. Après ça, la politique, c'est pas mon seul champ d'intérêt dans la vie. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé l'international. J'ai travaillé beaucoup dans le communautaire durant mes études. Mais pour l'instant, je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux comme maire de Laval. On a des beaux projets qu'on met de l'avant. Donc, je suis très bien dans ce que je fais aujourd'hui. Puis un peu comme tout le passé, comme vous avez vu comment est-ce que mon parcours des fois passe d'une chose à l'autre. Mm-hmm. J'ai toujours suivi mon cœur, puis c'est ce que je vais continuer à faire pour la suite.
Mais il y a quand même des liens dans tout ça. Hein? Vous êtes fidèle à vous-même, donc déjà, c'est une trajectoire qui est très cohérente.
Moi, ça a toujours été d'essayer d'apporter des solutions. Tu sais, la pyramide de Maslow, où on a besoin de se nourrir, de se sentir en sécurité, d'être aimé. La dernière étape, c'est ce sentiment d'accomplissement. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été à cette étape-là. J'ai un besoin fondamental, viscéral, de sentir que mon existence sur la Terre a une signification, puis que je peux contribuer. Je veux pas mourir en me disant que j'aurais pas contribué à aider. Tu sais, je veux avoir un impact, je veux sentir que je contribue à régler des problèmes. Moi, c'est beaucoup ça qui me motive au quotidien. Donc, tant sur longtemps que j'aurai la capacité de sentir que je peux jouer un rôle positif, je vais continuer à être impliqué.
Bien, merci beaucoup, Stéphane Boyer, d'avoir échangé avec nous ce matin. Hein, c'est un vrai vent de fraîcheur, hein, de renouveau.
C'était vraiment une discussion
intéressante. Ça fait du bien. On a senti de l'énergie dans le studio. Votre engagement, vos convictions, c'est votre façon de concevoir la participation à une société meilleure. C'est très, très inspirant. C'est d'autant plus inspirant quand on sait que votre engagement politique au niveau municipal, c'est exigeant. Vous êtes proche du terrain, avec les avantages et les inconvénients. Hein. Quand on est près des gens, il y a une emprise plus directe sur les solutions, hein, puis ça vous convient bien à ce que vous voulez réaliser. Mais aussi, vous êtes plus proche de la critique. Hein. Il n'y a pas juste les médias sociaux qui vous atteignent, mais aussi le face-à-face, comme on dit. J'imagine que ça doit vous arriver de temps en temps, hein, des commentaires à l'épicerie ou je sais pas quoi qui peuvent être parfois difficiles. Alors, on parle souvent du renouveau en politique. Souvent, ça reste dans les intentions. Mais dans votre cas, et aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on sait que dans l'action, vous privilégiez beaucoup la collaboration avec d'autres élus. Mmh. Ça aussi, c'est très, très inspirant. Et tantôt, vous parliez de ces aînés dont nous, on fait partie, qui ont remis un peu les clés et le pouvoir entre les mains de votre génération. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est porteur et qui nous fait du bien et qui donne espoir aussi, parce que ça amène une gestion plus efficace de la voie publique. En tout cas, on croit en ça. Puis aussi la résolution de problèmes qui sont persistants, auxquels, malheureusement, on doit s'avouer vaincu parce qu'on n'a pas su trouver, nous, les solutions pour arriver à des conclusions durables. Alors, merci beaucoup. Et à la recherche et à l'animation de ce balado au-delà des limites, Yvan Deslauriers et Francine Forget. À la réalisation, Mathieu Tessier. Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.